France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Alors certes, elle joue de la musique traditionnelle irlandaise, oui, elle fréquente aussi régulièrement le répertoire contemporain, mais Anna Besson a 36 ans, c'est bien ça?
Pas encore 35, merci.
35, pardon, et avant tout, une grande flûtiste baroque, on la retrouve dans de nombreux ensembles, on va en parler dans un instant, mais c'est en soliste qu'elle vient d'enregistrer des sonates de Corelli et du moins connu Quentin, Jean-Baptiste de son prénom, des pièces écrites à l'origine, enfin on va en parler, pour le violon, la flûtiste des goûts réunis, donc comme on disait, Anna Besson, bonjour.
Bonjour.
La période de Pâques s'achève, période où traditionnellement les ensembles baroques sont sollicités, notamment pour les passions de Bach. Vous avez joué à Rennes, Nantes, Poitiers et en Allemagne, la Saint-Mathieu avec le Banquet Céleste. Comment on vit, comment on sort de ces presque 3 heures de musique d'une haute intensité musicale et dramatique?
Je dirais en transe. Il y a bien quelques œuvres comme ça qui sont donc les deux passions, la Saint-Jean et la Saint-Mathieu, ainsi que la Messe en Si de Bach, qui sont vraiment 3 œuvres où on n'a aucune envie de se lever à la fin pour saluer, par exemple. J'en discutais avec d'autres musiciens, on a vraiment cette impression qu'on a partagé quelque chose, on a fait un long chemin ensemble avec le public, et à la fin de ces œuvres, on a envie juste de partir. Ce qui s'est passé à Arnstadt, c'est vraiment ce qui se passe en Allemagne. On se lève, l'audience se lève par respect pour les musiciens, mais n'applaudissent pas. Et chacun part de son côté. Et c'est d'une force et d'une beauté incroyable.
Donc à la fin de la passion en Allemagne, personne n'applaudit?
Personne n'applaudit. Les gens se lèvent.
C'est-à-dire ce que Gustav Leonhardt demandait, je crois, lors des concerts de ses œuvres, grandes œuvres sacrées de Bach.
Et je comprends très bien pourquoi, en fait. Ça fait sens. Je trouve que c'est quelque chose qu'on partage avec le public, mais qui n'est pas une performance, je trouve. C'est vraiment une histoire qu'on raconte ensemble.
En Allemagne, il y a quelques jours, c'était aussi le dernier concert de Damien Guillon à la tête de cet ensemble qu'il a créé il y a 15 ans, le Banquet Céleste. On en a déjà parlé dans cette émission. Il a choisi de partir pour de nouvelles aventures. Il y avait une saveur particulière à ce dernier concert d'un chef?
Ah oui, et puis surtout de le faire justement à Arnstadt, qui avait déjà une saveur particulière. Oui, tout le monde était extrêmement ému. Déjà depuis le départ, puis c'était aussi l'anniversaire de Damien, donc était réuni pour que ce soit extrêmement émouvant et fort.
Quand on joue dans plusieurs ensembles indépendants baroques comme ça, Anna Besson, il faut quoi, quelques jours pour s'ajuster, s'adapter à des chefs qui ont des intentions parfois différentes? C'est stimulant, ça peut être désarçonnant aussi?
Les deux en général. Par contre, je pense que la stimulation est plus importante encore. C'est quelque chose que j'adore et que j'ai toujours rêvé de faire, c'est justement de lier déjà mon métier au voyage, de rencontrer plein de gens différents, et justement, je crois que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est m'adapter aux gens. Arriver dans une partition et se dire, voilà, lui réagit comme ça, je vais essayer d'aller dans son jeu, etc. Et on s'endort jamais. C'est un peu le côté positif, c'est qu'on est tout le temps en éveil, en essayant de vivre avec chacun et de correspondre en fait à chacun.
Pas de chef, mais 3 musiciens sur votre nouveau disque. Myriam Regnol, Jean Rondeau et vous, au programme, Corelli. Thank you. extrait d'une sonate de l'opus 5 de Corelli, l'opus 5 numéro 3, avec notre invité Anna Besson à la flûte, Jean Rondeau au clavecin, Myriam Rignol à la basse de viol, la viole de gambe. C'est sur ce disque paru tout récemment chez Alpha Classics. D'abord, cette musique de Corelli, Anna Besson, comment vous l'avez découverte de façon générale?
Alors, je me rappelle très bien, j'avais 18 ans. Je venais d'arriver de mon Perpignan natal à Versailles. Et j'avais un bon pour acheter un CD chez un disquaire. Et puis à l'époque, il y avait ces boutiques Harmonia Mundi. Donc j'allais déjà beaucoup à Perpignan. Et puis je m'étais dit, tiens, on va retrouver un petit peu de maison. Je vais aussi dans cette boutique à Versailles. Et chercher des compositeurs. Et puis je vois Concerti Grossi par l'ensemble 415 et Calabanchini. Je me rappelle très bien. Corelli. Et donc j'ai écouté ça. Et j'ai écouté ça en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Je trouvais ça merveilleux. Et donc petit à petit, j'ai essayé d'écouter plus de choses. Je me rappelle aussi avoir imprimé plein de partitions des trios sonates pour deux violons et basse da Chiesa et de demander à plein de copains, est-ce qu'on pourrait jouer ça, etc. On arrange ça.
Mais vous étiez moderne. Flûtiste.
J'étais flûtiste et puis moderne en plus. Mais la musique m'a touchée.
En quoi la musique de Corelli, parce qu'il n'a pas énormément écrit de musique, pas du tout pour la voix, pour vous, il a fait évoluer, voire révolutionner la musique instrumentale du XVIIIe siècle. Et qu'est-ce qui vous touche tout simplement dans sa musique?
Je pense qu'il y a quelque chose qu'on retrouve aussi chez Bach, c'est le côté universel. Il y a ce langage qui parle directement. En tout cas, moi, ça m'a parlé directement. Et on n'a pas besoin vraiment de se dire, alors attends, ça, il a fait ça comme ci ou comme ça. Il n'y a pas d'analyse derrière. C'est juste, c'est aussi très très bien équilibré, je trouve. Tant dans les sonates que dans les concertis, il y a les adagios sont sublimes, puis on passe à quelque chose de très dansant, très emballé, puis on retourne à quelque chose d'extrêmement sublime, et c'est très balancé, très équilibré. Donc oui, c'est plutôt ça qui m'a touchée en premier, c'est cette capacité à toucher l'auditeur directement.
Des sonates qui sont écrites à l'origine pour le violon, et puis, si j'ai bien compris le livret du disque, une trentaine d'années après, elles ont été ajustées, comme on dit, à la flûte traversière avec la basse par un éditeur parisien. Comment elles sont adaptées? Forcément, on ne peut pas jouer la partie de violon telle qu'elle, puisque vous pouvez faire qu'une note qu'à la fois, contrairement au violon.
Exactement. Donc, c'est ce que je raconte quand on fait les concerts, c'est qu'il faudrait que je chante dans la flûte pour arriver à faire les doubles cordes, ce qui est absolument impossible. En tout cas, pas très joli. Donc, en fait, ça a été très bien fait. C'est-à-dire que pour tout ce qui est double corde, par exemple, en rythme de croche, on va l'arrangeur, puisqu'on ne sait pas qui c'est anonyme, a dédoublé. Et on se retrouve avec des doubles cordes, qui donne vraiment un effet de double corde, vu la vitesse. Et si, alors, la grande différence, c'est vraiment l'adaptation des tonalités, puisque le traverso, donc, qui se joue avec 7 trous, dont une clé, dont un couvert par une clé, malheureusement un petit peu restreint au niveau des tonalités. Il y en a quelques-unes qui marchent très très bien, et puis le reste, ça devient compliqué. Donc, par exemple, le Do majeur du violon a été transformé en Ré majeur, qui sonne très bien sur le traverso. La quatrième sonate, qui est ma préférée, est en Fa majeur pour le violon, a été adaptée en Sol majeur pour le traverso. Voilà, ce sont juste des tonalités qui sonnent beaucoup mieux sur l'instrument.
Vous venez de dire ce mot, traverso. Madame la flûtiste, c'est quoi la différence entre un traverso et une flûte traversière?
Aucune différence. C'est juste le terme italien qu'on utilise, traverso, qui était, en fait, le traverso a été... Et c'est d'abord appelé flûte d'Alpin, puisque ça venait un petit peu des gardes suisses à la Renaissance. Flûte d'Alpin, puis flûte traversière. Et puis en fait, on a adopté le terme italien, traverso. Mais c'est exactement le même instrument.
Mais là, sur ce disque, vous jouez, d'ailleurs, il y a une petite photo qui l'atteste, vous ne jouez pas une flûte en métal.
Non, c'est en bois.
Quel bois?
Alors, c'est du grenadille. C'est de l'ébène du Mozambique, grenadille.
Vous en avez combien des flûtes?
Ouf, beaucoup, beaucoup. Je pense que j'en avais une vingtaine. Puis j'ai commencé à collectionner, donc j'en ai vraiment une bonne vingtaine, oui.
Corelli? Et en miroir, Jean-Baptiste, Quentin, qui est-il? Qu'est-ce qu'on sait de lui?
On sait vraiment très peu de choses, si ce n'est que c'était un excellent violoniste, vraiment loué par ses pairs, et qui était violoniste à l'Académie Royale de Musique. Mais il y a même des doutes sur sa date de naissance, enfin, on sait absolument rien de ce monsieur, si ce n'est qu'il a composé beaucoup de musique de chambre, essentiellement la musique de chambre, et ses sonates pour violon, et son dernier opus, l'opus 14, est pour violon ou flûte traversière. Et c'est ce qui m'a mis un pied dedans et qui m'a dit, tiens, s'il l'a envisagé pour la flûte, pourquoi pas les autres livres?
Comment vous l'avez découvert, cet inconnu?
Alors, je l'avais enregistré avec le quatuor Nevermind, dont je fais partie, des sonates de Quentin et Guillemin. Et on avait adoré ce compositeur. Et puis, je me suis dit, tiens, voyons ce qu'il a écrit pour un instrument solo. Puis voilà, tout simplement.
Voyons ce qu'il a écrit. Thank you. ça finit un peu en suspens, puisqu'il y a une suite à cette deuxième sonate de Jean-Baptiste Quentin, écrite pour le violon ou pour la flûte d'Anna Besson, avec Jean Rondeau au clavecin, Myriam Rignol à la viole de gamme. C'est sur un disque qui vient de paraître chez Alpha Classics. Quand on est sur un mouvement lent, comme celui-ci, enfin, à lent, plutôt lent, il y a cette question de l'ornementation. Qu'est-ce qui est écrit d'ailleurs sur la partition, que ce soit chez Corelli et Quentin, dans des mouvements lents comme ceux-là?
Alors, il y a beaucoup plus écrit chez Quentin que chez Corelli. Corelli, c'est vraiment très, très nu. C'est donc au choix. Alors, c'était vraiment... c'est une question intéressante, puisque je me suis vraiment tracassé la tête à me dire comment je vais faire, puisque Corelli est une musique italienne, mais qui a été arrangée et ajustée à la flûte traversière, mais en France, à la fin des années 1730. Donc, est-ce qu'on fait les ornements à la française ou à l'italienne? Puis, Quentin est un compositeur français, mais qui est extrêmement influencé par la musique italienne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quel choix faire? J'avais déjà ma petite idée sur la question des adagios de Corelli, que j'avais envie d'ornementer à la Corelli, puisqu'on a retrouvé, il y a une édition de 1700 avec des ornements que Corelli aurait approuvé, édité à Amsterdam, et qui sont vraiment incroyables. Et Quantz dit dans son traité, ce qui est quand même intéressant, pour nous, les flûtistes, c'est notre Bible, dit que si on fait des ornements à la française dans la musique italienne et vice versa, ça ne marche pas du tout. Et je suis absolument d'accord avec lui. Donc voilà, j'ai pris le parti.
Vous avez tranché.
Voilà, j'ai tranché. Et j'ai fait une espèce de mélange de Corelli slash Besson slash autre version qui me plaisait.
Anna Besson, là, vous jouez des pièces qui sont écrites pour certaines pour le violon ou d'autres flûte ou violon. Est-ce qu'il y a une petite frustration que les compositeurs baroques n'aient pas davantage écrit pour votre instrument comme soliste?
Oh, vous mettez le doigt là où ça fait mal. Oui, 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 vraiment. Après, je me plains, mais en fait, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai fait beaucoup. Je suis passée en musique ancienne, on va dire, du côté musique ancienne, puisqu'il y a énormément de répertoires qu'on n'a pas encore découvert. Qu'on peut découvrir tous les jours. On pourrait vraiment trouver à sa fin, vraiment tous les jours, en allant sur le site de la BNF de Gallica. Il y a tellement de choses. Alors qu'en flûte moderne, bon, il y a des pièces vraiment très virtuoses, mais on tourne un petit peu en boucle, j'avais le sentiment. Alors que là, j'ai découvert beaucoup de pièces. Il faut attendre vraiment les années 1730, justement, et l'arrivée de flûtistes comme Blavet, qui étaient absolument virtuoses de leur instrument, pour que les compositeurs s'intéressent un petit peu plus au traverso et se disent, tiens, si lui peut faire ça, alors je vais...
Parce que les interprètes étaient meilleurs, il n'y a pas eu de changement de facture, par exemple.
Non, non. Voilà, ça reste en traverso. Justement, ce qu'on vient d'écouter est en fa dièse mineur, ce qui est extrêmement malhabile pour la flûte.
Vous me disiez, cette bascule vers la musique baroque ancienne, elle s'est faite quand? Vous avez commencé avec la flûte traversière classique?
Alors, j'ai commencé avec la flûte traversière classique, puis quelques années après, j'avais aux alentours de 9-10 ans, je me suis mise à la flûte irlandaise en bois. Donc en fait, cet amour du bois m'a vraiment amené vers le répertoire baroque, quelques années plus tard. J'ai commencé tranquillement à découvrir le traverso vers mes 18 ans à peu près, puis à le faire de plus en plus assidûment.
C'est vrai que vous auriez pu être harpiste?
J'aurais adoré être harpiste. Les cheveux longs, tout ça. Alors, j'ai jamais pu avoir les cheveux longs, je pense que c'est lié.
Pourquoi vous n'avez pas fait de harpe?
J'en ai fait. À 16 ans, j'ai dit c'est bon, je loue ma harpe. Et puis en fait, les pédales et tout ça, ça ne marchait pas du tout.
Ici, vous jouez avec deux amis de longue, très longue date, Jean Rondeau, claveciniste bien connu, Myriam Rignol, vous connaissez depuis très très longtemps.
Depuis qu'on a 11 ans. En fait, la maman de Myriam était ma professeure de flûte moderne au conservatoire de Perpignan. Et j'étais avec Myriam au collège à Jean Moulin à Perpignan.
Voilà. Il y a des familles dans le baroque, où il y a cet ensemble Nevermind dont vous parliez avec Jean Rondeau. On évoquait tout à l'heure cet ensemble, le Banquet Céleste. Il y a différentes familles de baroque qui ne se croisent pas forcément, où tout le monde se connaît, tout le monde se mélange.
Je crois qu'il y a beaucoup... ça dépend des pays, je dirais. Puisque moi qui joue beaucoup en Belgique, en fait, il n'y a presque aucun musicien en commun avec les ensembles avec lesquels je joue en France. Mais quand on joue en France avec certains ensembles, en fait, on trouve beaucoup, beaucoup de musiciens en commun. Il y a un tronc commun.
Quels sont les chefs qui vous ont le plus appris, le plus influencé?
Je dirais Philippe Hervaig, à qui j'ai fait un concert.
Belge.
Un Belge, par exemple, oui, c'est vrai. Je vais aller vers la France. C'est difficile, ça. Enfin, je crois que je suis quelqu'un de très ouvert déjà, donc j'aime bien prendre de tout le monde. Je crois que chaque chef a quelque chose à nous apprendre. Donc je suis vraiment comme une éponge. Donc, mais quelqu'un qui m'a vraiment marqué, par exemple, récemment, c'était Maxime Emelianchev, à qui j'ai enregistré un CD Mozart avec Pomodoro. Ah, voilà. Ouais. J'ai adoré ses symphonies de Mozart avec lui. Adoré. Je crois que j'aime les gens qui ont une vision très, très définie de la pièce qu'on va faire ou jouer et qui la défendent coûte que coûte.
Donc j'en déduis que vous jouez aussi dans l'ensemble Il Pomodoro.
Absolument, oui, oui.
Et puis il y a un autre chef qui est né à Louvain, qui lui a 36 ans.
Alors oui, lui oui. Bientôt 37. C'est Reynaud, mon mari, oui. Qui est en ce moment à l'Opéra de Paris pour faire Jason et Médée avec les Arflots.
On écoute ?
On écoute.
Êtes-vous allées, mes belles amourettes, changerez-vous de lieu tous les jours, puisque le ciel le veut ainsi, que mon mal ne regrette. Je m'en irai dans ses rêves, compter mes amoureux discours. Êtes-vous allées, mes belles amourettes, changerez-vous de lieu les jours, à qui dirige mon tourment et mes peines secrètes, je m'en irai dans ses bouées, chanter d'une mourante vouée. Êtes-vous allé, mes peines amourettes, changerez-vous de lieu mille fois, vous allez dans l'amour dans les lieux où vous êtes, les oiseaux depuis ce jour chantent dans vos bruits tour à tour. Êtes-vous allés, mes belles amourettes, revenez en délice séjour. Êtes-vous allés, mes belles amourettes, revenez en délice séjour.
C'est une brunette, comme on dit, une chanson galante du XVIIIe siècle. Où êtes-vous allé, mes belles amourettes? La voix de Reinhout van Mechelen et l'ensemble An Nocte Temporis avec vous. C'est un peu votre bébé commun en dehors de vos deux petites filles.
Qu'on a confondé, exactement, en dehors de nos deux petites filles.
Ouais. C'est votre An Nocte Temporis, ça prend quelle part dans votre activité musicale?
Une grande, grande part. Et puis, on a fait ça parce qu'on avait envie de se voir, puis qu'on était sur des productions différentes, et puis qu'on adorait travailler ensemble et qu'on n'avait pas tant l'occasion que ça. Et puis, c'est chouette, c'est à la maison. On essaie de faire beaucoup de pédagogie aussi avec cet ensemble. Et en fait, ça nous nourrit vraiment énormément, surtout en ayant des enfants. Maintenant, ça prend encore plus de sens. Donc, on a créé notre festival. Ça prend de plus en plus d'importance et c'est très chouette.
Vous irez le voir à l'Opéra de Paris.
Je vais voir la générale, parce qu'après je suis en concert. Oui.
Médée Charpentier, il sera Jason Reinhout. On se demande toujours comment on doit prononcer, c'est Reinhout.
Ah, ça c'est la Flandre, ça c'est difficile.
Quand on le recevra, on saura comment bien prononcer. Vous enseignez à Bruxelles, vous enseignez à Amsterdam, vous vivez en Belgique, d'ailleurs vous avez enregistré ce disque juste à côté de chez vous. Ouais. Pourquoi pas en France, vous la Perpignanaise?
Pour vivre ou pour enseigner?
Pour enseigner.
Alors, on m'a offert ces postes, donc si Paris s'offre à moi, qui sait? Qui sait. Mais je crois que... Ouais, ça, c'est une bonne question. Pour vivre, en fait, on a choisi la Belgique aussi parce qu'on planifiait déjà avoir des enfants. Et puis, c'était soit Perpignan, soit la Belgique. Et en fait, j'ai plus vite fait de faire un aller-retour depuis là où on est né en Belgique que depuis Perpignan.
L'enseignement est différent?
Ouf. Je sais pas. Non, je pense que déjà, c'est très différent entre Amsterdam et Bruxelles. Tout dépend du département. C'est pas tant lié au pays que comment fonctionne le département de musique.
Je disais baroque, mais pas exclusif. Vous continuez à vous produire de temps en temps dans des orchestres symphoniques classiques?
Alors, de moins en moins ça. On continue à m'appeler pour des remplacements, mais c'est 2 semaines avant. Voilà, à l'opéra, on continue. J'adorerais revenir là-bas. Mais
à l'opéra de Paris?
Oui, c'est très compliqué d'organiser ça. Donc, peut-être plus tard.
Et le contemporain?
Alors, contemporain, ça fait aussi très très longtemps. Voilà, ça reste quelque chose que j'adore faire, mais... Pour l'instant, ça ne rentre plus dans l'agenda.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique. Jean-Baptiste Urbain.
Notre invitée, c'est Anna Besson, flûtiste baroque, mais pas exclusivement. On venait d'en parler. co-directrice musicale de l'ensemble A Nocte Tempori. Ce disque Corélie Quentin qui vient de paraître chez Alpha Classics. Et puis quelques concerts. Ce programme, vous le donnerez à la scène musicale à Boulogne-Billancourt le 19 juin. Il va aussi parcourir le chemin des festivals, notamment au festival musical Les Musicales de Normandie qui vous consacre un portrait. Puis on vous entendra chez vous au festival de musique sacrée de Perpignan le 11 juillet. C'est l'heure d'ouvrir votre diaporama musical. On va écouter des musiques, certaines que vous avez choisies, d'autres c'est nous qui les avons choisies pour vous, et vous nous dites, quand le micro est ouvert, ce que ça vous inspire, puisque c'est aussi.
Voici un extrait des Leçons de ténèbres de Couperin, le motet Tabel Serem et Fetsit, et que j'ai découvert tout à fait par hasard en écoutant beaucoup de musique, puisque je passe mon temps à écouter de la musique. Et j'ai vraiment stoppé dessus, et je me suis mise à l'écouter en boucle, en boucle, en boucle, de la pureté, de la beauté de ces quelques... Ça dure vraiment 2 minutes en tout, 1 minute 30, et ça m'a absolument touchée. Je crois que je suis très touchée par la voix en général, mais c'est vraiment une... Je dirais pas toute l'œuvre, mais cet extrait est quelque chose que j'ai pu écouter sans arrêt, depuis des années. Je l'écoute régulièrement.
De grandes voix, Sandrine Pio, Caroline Pelon et les talents lyriques de Christophe Rousset, c'est un chef avec lequel vous avez travaillé ?
Oui, deux fois. Oui, oui. Oh. Je sais même plus pourquoi. Si c'était pendant la Covid, c'est pour ça. Oui, on a fait du Handel.
Deuxième musique.
Alors voici un CD de Mac McGoldrick qui s'appelle Morning Worry, le premier de ce flûtiste. Et c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier en musique irlandaise. J'avais 9 ans, mon papa est revenu d'un festival en train de me dire « Voilà, on m'a donné ça, c'est de la flûte, c'est pour toi ». Et je pense que ma mère m'a maudite depuis ce jour-là, puisque je n'ai cessé de le mettre en boucle dans mon appareil musique et mon Walkman. Et je ne travaillais plus à l'école, je le passais en boucle pour repiquer tous les morceaux. Mac McGoldrick, mon héros.
Vous en faites toujours de la musique irlandaise ?
Toujours.
Avec quels instruments ?
Avec des flûtes irlandaises. Alors j'avais une copie de modèle Riddle jusqu'à présent, et là je suis en train de voir, je pense que je vais acheter une Riddle Rose de 1830.
Allez, troisième musique.
Oui, bien sûr, c'est la bête noire de tout flûtiste. C'est un extrait de l'offrande musicale. Et on parlait tonalité avec les Corélie tout à l'heure. L'offrande musicale de Bach est en do mineur. C'est une catastrophe pour le traverso. C'est extrêmement dur. C'est une pièce magnifique, mais vraiment très très difficile.
Interprétée par une jeune flûtiste il y a 10 ans.
Voilà, j'avais 23
ans. Sur France Musique, dans Génération Jeunes Interprètes de Gaël Le Gallic. En 10 ans, Anna Besson, comment la musicienne a-t-elle changé, évolué ?
Off. Beaucoup, mais je pense que outre la musique, mon grand changement était de devenir maman. Je pense que ça a tout changé, hein. Mon jeu, ma façon d'être.
Ah bon, comment ça, votre jeu ?
Je suis devenue d'une patience incroyable. Et je sais pas, une espèce d'amour pour le monde en général. Je pense que ça a beaucoup changé de choses. Oui, oui.
Ça s'entend ?
Oui. Oui, oui.
Allez, on se quitte avec ça.
Until now.
voici deux artistes que j'adore, Jacob Collier et Becca Stevens. Donc Jacob est anglais et Becca est américaine. Et je les adore séparément dans ce qu'ils font. Et alors là, c'était un extrait d'un concert en Allemagne, si je ne me trompe pas, sur Arte concert. Et je trouve leur collaboration merveilleuse. Ils ont fait quatre chansons, je pense, ensemble. Et j'écoute ça en boucle aussi. Voilà.
Anna Besson était notre invitée, disque Quentin Corelli, paru chez Alpha Classics, concert à la scène musicale le 19 juin dans ce programme, le 11 juillet à Perpignan, et puis un portrait au Musical de Normandie avec plusieurs concerts. Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Merci à vous.
À réécouter sur francemusique.fr.